السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشايخ خير، مشايخ سور الإسلام، نو رميسيون الله سبحانه وتعالى كي نو دان لا بوسيبيتي سو سوار دو نو ريونير في هذا المسجد دو نور الإسلام أبل صلاة العشاء أكومبلي أون كونغريغاسيون دون لو بو دو سيليبري لو نكاح دو يوسف إي دو نيما. Avant de commencer, bon, la petite intervention très rapide concernant quelques vertus, quelques principes sur le mariage, il y a deux demandes de la part de la famille de la fille. La première demande, c'est une marque de respect par rapport à un invité d'honneur qui est présent dans cette assemblée ce soir. C'est le cheikh Abdullah Raïs qui nous est venu de Makkatul Mukarrama et qui est donc présent ce soir, qui est donc à ma droite, ne le regardez pas tous en même temps, et donc qui est donc cette assemblée est illuminée par la présence de ce genre de personnes. Et la famille m'a donc demandé de dire quelques mots à l'attention de Cheikh Abdullah pour le remercier de sa présence. فشيخ عبد الله نرحب بكم في جزيرة رينيون المسجد الآن الليلة منورة بحضوركم جزاك الله خير. وطبعا أول مرة تزورنا في رينيون لازم تعرف أن هذا المسجد مسجدك، هذه مجتمعك، نحن إخوانك، أنت أخونا، بل أنت رئيسنا الليلة، فأهلا وسهلا، جزاك الله خير، الله يحييك. Ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est la maman de la fille nous avait dit que sa maman, elle, qui a, je ne sais pas, 80 ou 90 ans, je ne veux pas exagérer, qui est assez âgée, et donc elle dit qu'elle va être présente pour la cérémonie du mariage. Donc Moïsab, surtout, ne fait pas de bayan très long. Et on a promis que ce ne sera pas long. Et je promets à Youssouf que le bayan s'arrêtera avant que le khutbah du nikah commencera. Il n'y a pas de souci. Donc mes chers frères en islam, ce soir, c'est un moment extrêmement important pour Youssouf et Naïma. Extrêmement important de leur vie d'être humain par rapport à la fitra, l'inéité à l'intérieur de chaque personne. Allah a créé l'être humain de la sorte qu'un homme, à un moment donné de sa vie, a besoin de se rapprocher d'une femme. Un homme, à un moment donné de sa vie, a besoin d'extérioriser ses sentiments. Et à un moment donné de sa vie, l'homme et la femme ont besoin d'avoir des enfants. Ça fait partie de la fitra. On appelle ça en français l'inéité. Donc ce soir, on concrétise ce fitra qu'Allah a créé dans chaque être humain. Moment important pour Youssouf et Naïma également dans leur vie de musulmans. Parce que vous savez que notre prophète alayhi salat wa salam a dit que lorsqu'un musulman se marie, c'est la moitié de sa foi qu'il va compléter. Et un moment important également de leur vie sentimentale, parce qu'ils vont concrétiser ce soir un amour existant. Depuis combien de temps? On ne m'a pas mené l'enquête, mais un amour existant qui va se concrétiser par les liens du mariage. Il faut sourire à Youssouf, on ne t'enterre pas, on te marie. Également un moment important pour un ummati, parce que quand un ummati se marie, il fait revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il fait revivre la sunna de tous les anbiya alayhi salatu wa salam. Et il faut attirer l'attention de tout le monde, mère et soeur, papa, maman, les anciens, les nouveaux. Vous savez, très souvent on fait des nikahs le jeudi soir ou le vendredi après salatul jumu'ah, dimanche encore il y a eu un nikah ici à Nour al-Islam. Pour nous c'est presque un rituel, c'est comme si c'est quelque chose de normal. À une étape de la vie du musulman, il se marie. Oui, à la base c'est normal, mais dans la société où on vit, le mariage est devenu quelque chose d'extrêmement rare. Quand quelqu'un se marie, quelqu'un qui n'a pas la foi bien sûr, c'est presque que la personne se marginalise. Et quand dans des cercles d'amis on dit « ouais, je vais me marier », c'est presque comme si que tu vas dire adieu ou au revoir à tous les plaisirs, à toutes les sorties, à toutes les, qu'on appelle les maladats dunya. C'est-à-dire que dans la vie, Allah musta'an, avec la mentalité qui vient de différents endroits, frère, donc, qui a tendance à aller à l'encontre de nos valeurs de musulmans, on va utiliser des mots assez corrects quand même, inshallah, le mariage est devenu quelque chose de très rare. Et il faut apprécier un mariage, parce qu'un mariage est avant tout un signe de présence de iman. On l'avait rappelé il y a un mois et demi lors d'un dernier nikah, mais ça il faut le dire à chaque fois, à chaque personne qui vient pour se marier, le message principalement c'est pour ces gens-là, pour le marié et sa future épouse. Quand quelqu'un se marie, quand on a un jeune, Youssouf, il a 22 ans, et Naïma qui a 21 ans, à cet âge-là quand on se marie, ça prouve que dans le cœur, on a l'amour d'Allah, que dans le cœur il y a la crainte d'Allah. Autrement, il est tellement facile, tellement aisé de vivre avec le terme nouveau qui s'appelle en concubinage, ou de, entre guillemets, sortir ensemble. Il y en a qui sortent ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans, et pour ces gens-là, malheureusement, c'est devenu une relation tout à fait normale. Alors quand on voit des jeunes de cet âge, subhanallah, qui décident de concrétiser cet amour, de rendre cet amour licite par les liens du mariage, du nikah, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est une preuve de présence de iman. Et quand on voit ce genre de, subhanallah, ce genre de réaction de la part des jeunes, on doit les féliciter. Féliciter pour leur envie, leur désir de se conformer aux ordres d'Allah, de mettre en pratique une des sunnats du prophète alayhi salatu wassalam. Mais nous devons également féliciter les parents, monsieur Akoun et monsieur Panchbaya, hein, pour le souci qu'ils ont fait pour leurs enfants. Vous savez, on avait dit la dernière fois, mais on le répète, le mariage, c'est l'aboutissement de l'éducation d'un enfant. Quand on a un enfant, hein, il est bébé, et puis il va devenir grand, il va aller à l'école, il va passer au cours élémentaire, au collège, au lycée, il passe ses examens, il passe son permis, etc. C'est-à-dire toutes les étapes de la vie d'un jeune homme, d'un enfant jusqu'à devenir adolescent, jeune homme, un adulte. En finalité, c'est quoi le rêve d'un papa, le rêve d'une maman? C'est de voir leurs enfants un jour heureux. Et c'est quoi la notion de bonheur? Certes, c'est avoir du travail, avoir un diplôme, avoir des revenus confortables, on a besoin de personne, mais la recette principale du bonheur, c'est une vie sentimentale et familiale épanouie. Ou lorsque le mari rentre à sa maison, sa femme est là et qu'ils sont heureux ensemble. Ça fait partie des recettes du bonheur. Donc un papa marie son fils ou marie sa fille, on peut dire que l'objectif de sa tarbiya, de l'éducation qu'il a donnée à ses enfants depuis la naissance, alhamdulillah, on peut dire que mission accomplie. Et on doit féliciter les parents pour avoir permis à leurs enfants de se marier. Et des félicitations également pour le sacrifice financier qu'il y a derrière un mariage. Ça aussi, c'est cet argent qui est versé, inshallah, on peut le considérer que c'est un argent qui est fi sabilillah, parce que le but est de mettre en pratique une sunnah. Et on rappelle ce hadith, hein, ça il faudrait le rappeler à chaque mariage, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque un papa a eu deux filles et qu'il a éduqué ses filles correctement jusqu'à les marier, ça c'est dans les commentaires du hadith, notre prophète alayhi salatu wa sallam annonce la bonne nouvelle à ce père de famille qu'il se rapproche de lui comme ses deux doigts le jour de la résurrection. Alors nous savons que M. Rachid a encore deux filles, une qui a 17 ans, une qui a 4 ans. Incha'Allah, Allah Azza wa Jal vous donne, on a mené l'enquête, ne vous inquiétez pas, Allah Ta'ala vous donne la possibilité d'accorder, de donner une éducation parfaite dans les limites de l'islam, Inch'Allah, ses enfants, qu'un jour, Inch'Allah, ce seront la fraîcheur de vos yeux, vous les verrez, Inch'Allah, mariés également avec des maris pieux, Inch'Allah, et ce seront des ummati exemplaires. Et le jour de la résurrection, notre prophète, alayhi salatu wassalam, vous appellera, et il en est de même pour n'importe quel papa qui a deux filles, il se rapproche. On doit avoir conviction là-dessus. Iman yaqin, ça nous prouve l'importance de l'éducation. Éduquer un enfant jusqu'à le faire marier, c'est un grand ni'ma, c'est une faveur, et c'est quelque chose d'héroïque qu'il faut féliciter plus encore à notre époque. Had. Et on l'avait rappelé, on le rappellera sans cesse, Youssouf, le mariage se repose sur deux piliers. La première chose, c'est l'amour de le couple, l'amour, l'entente, les sentiments, le respect mutuel entre les conjoints. D'accord ? Et le deuxième pilier, c'est la pratique de la religion. On comprend bien que on ne peut avoir une vie de couple épanouie uniquement en s'aimant, uniquement avec des mots doux, avec des cadeaux. S'il n'y a pas la pratique du dîn, il n'y aura jamais de succès. Même si on fait un super mariage, on a une très belle maison, on a tout ce qu'il faut comme confort matériel, mais s'il n'y a pas la pratique de dîn, ça veut dire qu'il n'y aura pas de baraka. Mais s'il n'y a pas de baraka, s'il n'y a pas la bénédiction d'Allah dans notre vie, où ça nous va? S'il n'y a pas la bénédiction d'Allah, on peut réunir tous les asbabs, tous les intermédiaires qui apportent le bonheur, mais s'il n'y a pas la tranquillité qu'Allah met dans le cœur d'un mu'min, jamais il n'y aura la baraka, la bénédiction, la tranquillité. Donc on comprend bien qu'il faut avoir les deux choses, la pratique de la religion, mais en même temps les échanges d'amour, d'entente, de muhabba et de mawadda. Dans le sens aussi, on ne veut pas dire le contraire, on ne peut vivre également que de religion. On ne peut pas vivre toute la journée à la masjid et toute la nuit passer dans le tahajjud et que l'homme n'approche jamais sa femme, l'homme ne se prépare pas pour sa femme, etc. Ça nous montre que cette religion, c'est la religion du juste milieu. En même temps, il y a la pratique de la religion, mais en même temps, il y a le droit des gens. Et quand on arrive à combiner la spiritualité, c'est-à-dire la pratique de la religion, avec l'amour, le respect du conjoint, on pourrait même dire avec un peu de romantisme, alors le couple peut affronter toutes les étapes de la vie, toutes les situations de la vie. Les bons moments, bien sûr, mais il faut être réaliste. Hein, dans la vie, il n'y a pas que des bons moments. Hein, au début, le fleuve il est tranquille, mais après, il y a des tsunamis, parfois, il y a la sécheresse, parfois, il y a plein de choses qui se passent. C'est la vie d'un être humain. Et dans les moments difficiles, s'il y a une bonne entente dans le couple et il y a une bonne pratique de la religion, il y a les bases concernant la conviction en Allah, alors là, ce couple-là va traverser toutes ces étapes avec grande facilité. Et nous citerons un exemple. L'exemple du meilleur des hommes, le plus grand des prophètes, le plus grand des chefs de tribu, le meilleur père de famille, le meilleur mari, An-Nabi alayhi salatu wassalam. Regardez lorsque, petit exemple, lorsque l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Khadija, radiallahu anha, avait décidé de suivre son mari pendant la période mikwaz dans l'embargo qui a été imposé par les Quraysh, où il devait vivre dans le charme d'Abi Talib. Toute la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été sanctionnée parce qu'il pratiquait la religion, il propageait la religion, et il y avait un embargo. Personne n'avait le droit d'approcher la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire est très connue en sirat. Khadija radiallahu anha ne faisait pas partie de sa tribu. Donc, cette sanction ne la concernait pas directement. Mais par amour pour son mari, elle a décidé de suivre son mari de cet embargo qui a duré très longtemps, plusieurs mois. Et les ulama de Sira disent que certainement c'est à l'issue de cet embargo que Khadija radiallahu anha est décédée. Ça, c'est une preuve d'amour exceptionnel. C'est-à-dire que l'attachement qu'il y avait entre le prophète alayhi salatu wassalam et Khadija radiallahu anha, c'était basé pas uniquement sur la pratique de la religion, mais il y avait du respect, il y avait de l'amour entre An-Nabi alayhi salatu wassalam et Khadija radiallahu anha. Regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Très souvent, il y a cette image qui est véhiculée, je ne peux pas dire par l'Occident, mais par certaines personnes qui aimeraient nous faire croire que nous vivons une religion de violence. Regardez comment notre prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Est-il mort l'épée à la main? Est-il mort avec le sang d'un ennemi sur son thobe, sur ses vêtements? Notre prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Sa tête Mubarak était appuyée contre le genou. Les jambes de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Recherchez dans toutes les histoires de romantisme, de romans le drôle qui très souvent n'ont aucun fondement, où trouver un homme qui avait autant d'amour, autant d'affection, autant d'attachement pour sa femme. La raqqana la conférence l'illahi. Uswatun hasana. Ce uswa, le modèle du prophète alayhi salatu wassalam, c'est dans la pratique de la religion, bien sûr, mais c'est une leçon également comment se comporter en tant que papa, en tant que voisin, en tant que mari. Et comme on dit, il y avait le côté religieux, c'est bien le prophète alayhi salatu wassalam, mais il y avait le respect. Et si on veut comprendre comment était l'amour entre le prophète alayhi salatu wassalam et Khadija radiallahu anha ou Aïcha radiallahu anha après elle, il faut comprendre qu'au tout début, le premier pas dans la construction d'un amour durable, on parle d'un amour durable et non pas un amour passionné et volatile, comme c'est le cas de nos jours, où on aime à fond pendant un mois, deux mois, et puis on change de partenaire. Non, on parle d'amour durable. La première étape, c'est le respect mutuel. Parce que quand on se marie avec une fille, Youssouf, quand on se marie, on n'épouse pas que le corps d'une personne. On épouse la personne physiquement, on épouse la personnalité de la personne. On épouse quelqu'un qui a une éducation, quelqu'un qui a une histoire, quelqu'un qui a une tradition familiale. C'est cette personne. Il se fut un temps où on disait que quand on marie avec une fille, on marie avec sa belle-mère aussi, mais comme si on ne voit qu'à belle-mère. Ce n'est pas le cas. Islamiquement, quand on se marie avec quelqu'un, hein, toi que ta belle-mère, ça doit être quelqu'un de très bien. Quand on se marie avec quelqu'un, c'est marier physiquement avec la personne, mais on va essayer de s'adapter au caractère de la personne, toutes les traditions, parce qu'une personne qui a 20, 21 ans qui se marie, c'est quelqu'un qui a reçu une éducation, c'est quelqu'un qui avait des habitudes dans leur famille, et parfois dans une même ville, dans un même quartier, hein, on peut avoir deux familles qui ont des modes de vie un peu différents. Donc le mariage c'est tout ça, quand on a deux personnes de caractère parfois différents, de tempérament, on ne va pas dire opposé, mais parfois différents, trouver les points communs pour que les deux personnes donnent du meilleur d'eux-mêmes dans cette construction de vie de couple, ça c'est la richesse du mariage. On ne doit pas percevoir ça comme étant un handicap ou quelque chose qui sera source de conflit, bien au contraire. Vous savez, si c'était une relation de patron à employé, quand il y a un différend entre un employeur et son employé, différence sur une méthode de travail ou autre chose, ben la plupart du temps, hein, c'est l'employeur qui aura raison, parce que l'employé n'aura pas vraiment son mot à dire. Mais dans la relation de couple, certes, le Coran, Allah Ta'ala dit Ar-Rijalu, Qawwamuna 'ala an-nisa. Allah Ta'ala a accordé un rang spécifique à l'homme qui est supérieur à la femme. Mais ce n'est pas un rang supérieur mutlaqan tout le temps. C'est par rapport au devoir qu'Allah Azza wa Jal a accordé à l'homme. C'est parce qu'Allah Ta'ala a ordonné à l'homme, c'est lui qui doit subvenir à tous les besoins de la maison. question. Un mari n'a pas le droit de demander à sa femme de participer dans le loyer, dans les factures, etc., dans les courses. Ça, c'est le subhanallah, les droits que notre dîn a donné à la femme. C'est pour ça que l'islam a dit que l'homme a un rang supérieur. Rang supérieur, pas parce qu'il est supérieur physiquement ou spirituellement à la femme, c'est parce qu'il a énormément de responsabilités, énormément de devoirs envers son épouse. Mais si on analyse d'autres versets, lorsqu'Allah Ta'ala dit le Coran, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Dans ce verset, Allah Ta'ala explique que n'importe quel croyant, homme ou femme qui accomplit des bonnes actions, Allah garantit à ces gens-là une vie paisible. Les commentateurs disent que ce verset montre bien qu'aux yeux d'Allah, l'homme et la femme sont égaux. Il n'y a jamais été dit dans l'islam que l'homme était supérieur à la femme. Il y a un rang supérieur par rapport aux responsabilités, comme on l'a dit tout à l'heure, mais autrement nous sommes égaux devant Allah Azza wa Jal. Et ça fait 1500 années que notre dîn nous a enseigné l'égalité qu'il y a entre l'homme et la femme. Donc, dans le respect mutuel, il ne faut pas que l'homme, par exemple, il prend le dessus. Très souvent on a, cette génération non, mais peut-être les générations un peu avant, on tient ça du côté des Indiens, même chez les Arabes parfois, l'homme a tendance à crier, à lever un peu la voix dans la maison, à prendre le dessus sur la personnalité de la femme. Et parfois si on prend tellement le dessus, on finit par éteindre la personnalité de notre épouse. Et ça c'est quelque chose de très mauvais, parce qu'entre deux conceptions des choses, deux éducations, deux tarbiyah, il doit y avoir une fusion. Il doit y avoir une fusion des esprits afin que le couple puisse avancer à travers toutes les étapes de la vie. Donc il y a un effort extrêmement important de la part de l'homme. L'homme ne doit pas être machiste, d'accord ? L'homme ne doit pas s'imposer, mais en même temps l'homme doit tenir son rôle. C'est bien l'homme qui porte le longi, c'est l'homme qui doit sortir la famille des situations de crise, il doit marquer sa présence, autrement le bateau coule, autrement il y a une instabilité. S'il y a un problème dans la famille et que l'homme il se dégage, mais que pas moi, madame va gérer, là il y a un problème. Mais en même temps, si l'homme dit que mon épouse n'a rien à dire, c'est moi qui contrôle, là aussi il y a un problème. Donc il y a un juste milieu, une fusion des esprits. Et on citera une anecdote pour comprendre comment notre prophète alayhi salat wa salam nous a montré l'importance qu'il y a dans le respect entre les conjoints, dans l'estime de soi. Lorsque notre prophète alayhi salat wa salam a reçu la première révélation par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam, la première fois lorsque l'Iqra a été révélé, notre prophète alayhi salat wa salam ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Il a eu peur. Qui est-ce qu'il a été voir ? Le prophète alayhi salat wa salam est immédiatement allé voir Khadija radiallahu anha. Et Khadija radiallahu anha a su trouver les mots justes pour réconforter son mari. Et les commentateurs disent que, imaginez que le prophète alayhi salat wa salam avait terrorisé son épouse. Et c'était un homme qui dirigeait, qui a empêché sa femme de penser. Son épouse n'aurait jamais trouvé les mots justes pour soutenir psychologiquement son mari. Et vous savez, le soutien psychologique d'une femme, pour un homme, cela dépasse le soutien psychologique d'un collègue de travail ou même un supérieur hiérarchique. Quand une femme encourage son mari, c'est quelque chose d'énorme. Il y a un impact psychologique qu'on ne peut pas imaginer. Et Khadija radiallahu anha dit, oh jamais Muhammad, jamais, par Allah, jamais Allah ne te verrait telle chose. Tu es quelqu'un de tellement bon, quelqu'un de tellement noble. Tu honores tes invités, tu donnes à manger aux pauvres. C'est-à-dire, elle a trouvé les mots justes pour encourager son mari. Même cas de figure lors de du pacte de Hudaybiyah. Le prophète alayhi salatu wa salam reçoit l'ordre de reporter l'umra à l'année prochaine. Et il essaie de convaincre les sahaba qu'il faut enlever le ihram. On ne va pas faire le tawaf, on ne va pas faire le umrah cette fois-ci. Et les sahaba, ils ne voulaient pas. Ça fait combien de temps ils voulaient venir à Mecca? Ils étaient attristés, frustrés. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas quoi faire. Quelle était sa réaction? Il est parti voir son épouse, Umme Salama, pour faire quoi? Pour faire un mashvera. Il a été consulté son épouse. Il n'a pas été consulté Abu Bakr, ni Umar, ni Uthman, ni Ali. Il a été voir Umme Salama, son épouse, radiallahu anha, qui lui a donné les bons conseils. Il a dit au prophète d'Allah, va auprès de tes compagnons et fais le premier pas. Montre que toi tu fais le halq, tu te rases la tête et ils vont comprendre, ils vont te suivre. Et les compagnons ont immédiatement suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les commentateurs disent également, à travers cette anecdote, nous voyons comment il y avait une relation de confiance entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son épouse. Que ce soit Khadija radiallahu anha de son vivant ou Umme Salama ou Aïcha de leur vivant, quelles que soient les épouses. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Si on peut s'arrêter uniquement sur ce point, c'est déjà quelque chose de gagné. gagner. Parce que dans notre société, on aimerait tellement véhiculer l'image du musulman, de l'arabe, hein, qui est misogyne ou machiste, qui ne respecte pas sa femme. Mais voyez, à travers ces deux anecdotes, et à travers la manière que le prophète alayhi salatu wasalam est décédé, voyez comment le prophète alayhi salatu wasalam aimait son épouse, avait de l'affection pour sa femme. Donc c'est, Youssouf, le message le plus important à retenir. Pour construire l'amour durable, il faut avant tout le respect mutuel. Que le mari respecte sa femme, respecte ses idées, respecte sa personnalité, que la femme respecte également son mari de la même façon. Et les petits conseils hein, de base, hein, ça on le rappelle, n'oublions pas comment le prophète alayhi salatu wasalam manifestait l'amour au quotidien. Hein, ça ne doit pas être une relation où le mari a besoin de sa femme pour cuisiner et la femme a besoin de son mari pour travailler et amener de l'argent. La relation dans le couple, dans l'islam, ça va beaucoup plus loin que ça. Notre prophète alayhi salatu wasalam appelait son épouse par des mots doux. Ça c'est important. Il l'appelait Ya Aïcha. En parlant de Aïcha, notre prophète alayhi salatu wassalam avait toujours des propos extrêmement agréables. C'est pas le prophète, le chef d'état qui rentre chez lui et qui donne des ordres, qui interdit, qui tranche. Non, notre prophète alayhi salatu wassalam était au service de sa famille. Et notre prophète a dit une parole qui est magnifique. Si les féministes avaient ce genre de hadith, bon, pour eux c'est une citation, hein, ça ferait le plus grand credo. Inna akmal al mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisaikum rawahu at-Tirmidhi. Les meilleurs parmi les musulmans, ce sont ceux qui agissent le mieux avec leur épouse. Et sachez, ô musulmans, que moi je suis celui, le prophète sallam qui parle, je suis celui qui agit le mieux avec sa femme. Donc, si nous voulons suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous le faisons déjà dans notre manière de s'habiller, nous le faisons déjà dans notre apparence extérieure, sachons suivre l'exemple du prophète alayhi salatu wa sallam également dans la manière de se comporter avec notre femme. Et pour clôturer hein, cette petite intervention, mise en garde, attention, le mariage c'est du bonheur, le mariage c'est magnifique, mais le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal posera une question à la femme et une question à l'homme. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a expliqué que awwalu ma tus'alu anhu al-mar'atu yawm al-qiyamah an salatiha thumma an ba'liha kayfa fa'alat ilayh. Le prophète sallam dit que le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal, la première chose qu'Allah demandera à une femme, c'est des questions à propos de ses prières quotidiennes, les namaz, la salat, et ensuite à propos de son mari, comment a-t-elle agi envers son mari. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important à retenir. Et hadith de Umm Salama, une femme qui accomplit ces cinq piliers et qui a le contentement de son mari. Il n'y a pas besoin de faire plein de choses. Il n'y a pas été question de tahajjud toute la nuit ou plein de choses. Une femme qui accomplit ces cinq piliers et qui a le contentement de son mari, c'est une femme du paradis. Hadith de Tirmidhi, c'est une femme qui assurément accédera au paradis. Qu'Allah Ta'ala mette beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de baraka, beaucoup de mawadda et de rahma de ce couple. Et Inch'Allah, le summum de cet amour, c'est quoi? C'est que ce couple qui se marie à 22-21 ans, un jour ils ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, cet amour-là est aussi frais. Cet amour-là, elle est aussi intense qu'au premier jour, voire même, cet amour c'est amplifié, c'est développé. Et la consécration, la récompense, c'est quoi? C'est comme Allah Ta'ala dit au Coran, Jannatu Adn. يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Que dans le paradis, le mari retrouvera sa femme. Le mari retrouvera sa femme, ses parents, ses enfants, les familles, les proches se retrouveront à condition ومن صلح. C'est-à-dire à condition qu'ils avaient la pratique du dîn de leur vie, ils se retrouveront. Qu'Allah fasse Youssouf et Naïma parmi ces gens, ces futures personnes, Inch'Allah, du paradis qui sont réunis là-haut. Mais pour le moment, pour ces années passées sur ce dunya, qu'Allah mette beaucoup de baraka, qu'Allah leur accorde, durriyatan tayyiba, des enfants, beaucoup d'enfants qui seront la fraîcheur de leurs yeux. Subhan rabbika, rabbil izzati amma yasifoun, salamun ala al-mursaleen, wa akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin.